skipper malheureux lors des deux dernières éditions, un mât cassé en 2008-2009 dès le premier jour de course et une collision avec un chalutier dès le troisième jour de course, c'était sur l'édition 2012-2013. Il va tenter cette année de conjurer le sort. Quito de Bavant, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur le plateau de RCF Vendée, RCF Anjou et les radios associatives des Pays de la Loire. Vous êtes accompagné sur ce plateau d'Éric Bayon, un jeune bisu de 40 ans. C'est sa première participation sur le Vendée Globe. Bonsoir.
Bonsoir Eric. Bonsoir, c'est agréable de dire qu'on est jeune à 40 ans.
Merci d'être avec nous en tout cas. Vous êtes un petit peu déconcentré par l'écran qui est au-dessus de nous, où vous voyez les images de ces anciens Vendée Globe. Justement, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? C'est un rêve ce Vendée Globe?
En fait, au départ, quand je regardais tous ces Vendée Globe, c'était pas un rêve parce que pour moi c'était complètement inaccessible. Donc je me projetais pas, je pensais que c'était vraiment des surhommes et des surfemmes d'ailleurs. Et c'est depuis peu que je me suis mis en tête cette idée-là et que c'est devenu un rêve, mais c'est un rêve en fait depuis fin 2012-2013 quoi.
Quito de Pavant, pour vous, ça représente quoi le Vendée Globe?
Oh, moi j'ai suivi tous ces Vendée Globe et c'est vrai que comme Eric, moi je pensais pas faire le Vendée Globe il y a, ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans, je pensais que c'était réservé à des fous furieux. Alors, j'ai pas dû m'améliorer depuis tout ce temps-là, et j'ai commencé à m'intéresser vraiment au Vendée Globe en pensant que c'était finalement un truc raisonnable en 2005 avec l'arrivée de Jean Lecam avec qui je naviguais à cette époque-là.
Voilà, c'est ça qui vous a donné cette envie de partir un petit peu sur ce Vendée Globe. Éric Bayon, vous partez sur votre IMOCA comme un seul homme, un peu comme Thomas Ruyan sur le Souffle du Nord pour le projet Imagine, dont on en parlait vendredi dernier. On voit peu de sponsors, hein, sur votre voile, sur votre coque, ils sont tout de même marqués, mais vous avez un message particulier à faire passer. Comme un seul homme, qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Alors déjà, moi j'ai pas de sponsors, c'est des mécènes. Ils apparaissent de façon très discrète sur le bateau, en petit, sur la coque et sur le mât. Mais sur le bateau ou sur moi, il n'y a que comme un seul homme. C'est-à-dire que c'est 14 mécènes qui ont accepté de se mettre en retrait pour pousser la cause qui est la différence. Au départ, le projet, c'est une façon pour moi de sortir d'une case que je ne supportais plus. On m'avait mis dans la case diversité. Donc en gros, quand je témoignais de mes aventures, je devais toujours aller dans la semaine du handicap, la journée équité homme-femme, des choses qui emmerdent, excusez-moi l'expression, beaucoup de gens. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de parler d'innovation, c'était parler de performance collective et c'était parler de bonheur. Et donc, pour prendre les gens à revers, je me suis dit, quel est le truc le plus dingue et le plus médiatique que je peux faire? Et le Vendée Globe est arrivé en tête de liste, quoi. Et donc j'ai créé cette aventure pour changer concrètement les choses dans 14 entreprises, qui sont les 14 entreprises mécènes. C'est-à-dire que les 80 000 collaborateurs de ces entreprises arrêtent de penser que la différence est un acte humaniste, civique, légal ou fiscal. Mais en fait, c'est un acte de management. En fait, on n'a jamais bien innové avec des clones. Pour innover et créer, on a besoin de gens différents. Et donc dans une entreprise, si on veut être des véritables challengers et performer, Il faut recruter des gens différents et
mais
pas
alors,
en avoir peur.
La différence, ça veut dire quoi pour vous? C'est un peu vague, ça englobe plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis dans le mot différence pour vous?
Vous avez raison, on est tous différents. Et c'est vrai que la case diversité, je ne la supporte pas, parce que comme on est tous différents...
Mais expliquez-nous pourquoi cette case diversité, pourquoi vous étiez catalogué dans cette case diversité?
Parce que quand on traite justement de la différence humaine, sachant qu'on est tous différents, mais quand on traite des différences de genre, culturel, d'âge, valide, non valide, eh ben, on est tout de suite mis dans une case un peu Père Jaouen ou Abbé Pierre, de gars qui s'occupent de sujets qui sont vachement bien mais qui en fait qui nous intéressent pas. En fait c'est plutôt dans l'angélisme ou dans la bien-pensance, et moi c'est une case qui m'intéresse pas particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est les facteurs de création et d'innovation, et c'est surtout aussi les facteurs de bonheur collectif et donc par voie de conséquence de bonheur personnel. Au début, le projet était vraiment dédié au monde de l'entreprise, et on a eu l'année 2015 qu'on connaît avec les attentats. Et je sais pas, on est tous des citoyens autour de cette table. Moi, j'ai ressenti, vous allez me dire si vous avez ressenti la même chose, mais qu'il y avait un regain des discours de haine et de peur. Et comme je suis persuadé que la pensée est contagieuse, j'ai peur que cette pensée de haine et de peur soit une véritable contagion. Et je trouve qu'en face, on n'a qu'un discours, qui est un discours bien pensant, stérile, Vous savez, des gens qui disent mais la diversité c'est une richesse. Moi je suis pas d'accord, la diversité c'est pas une richesse. La diversité c'est d'abord des emmerdements. Et c'est ce qu'on fait de la diversité qui crée de la richesse. C'est cette volonté qu'on met à vivre ou travailler ensemble qui crée de la richesse. Et donc aujourd'hui, comme un seul homme, sans qu'on l'ait pensé au départ, c'est devenu un acte militant, un projet militant. On n'avait pas décidé ça au départ, c'était vraiment dédié à l'entreprise. Et les entreprises qui m'accompagnent, on a envie de faire un geste vraiment citoyen, au-delà du rapport annuel, hein, truc un peu pipeau qu'on voit un peu partout, c'est de se dire, regardez, société civile, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de nous, entreprises, de la façon dont on utilise la différence pour créer, innover, performer et être heureux dans la société de tous les jours? Voilà, c'est un discours pragmatique.
Et donc cette diversité, vous l'avez connue puisque vous avez, sur votre bateau, puisque vous avez fait un équipage avec des personnes valides et non valides. Voilà, vous avez voulu vraiment montrer que la diversité, ça peut, vous pouvez faire de grandes choses avec.
Ben ouais, moi, en fait, moi je viens d'un milieu bourgeois, de banlieue parisienne, très protégé. J'ai eu beaucoup de chance d'être très protégé. Et en fait, il est arrivé quelque chose de fabuleux dans ma vie, c'est que j'ai fait un tour du monde à la voile avec deux copains en mode clochard. Quoi. Et tout en embarquant 45 jeunes adultes, infirmes moteurs cérébraux avec nous. Et ça a changé ma vie. Et quand je me suis repointé en France, j'étais plus le même. Et j'ai ouvert les yeux sur notre société. Et j'étais assez effrayé de la façon dont on traite le handicap et de la différence. Et justement, ces cases qu'on adore, notamment en France. Et j'ai eu envie de m'investir, essayer de comprendre pourquoi on faisait ces cases et pourquoi on se passait de talents ou de gens qui peuvent travailler, pourquoi on leur faisait un chèque pour qu'ils restent chez eux. Ça me choquait énormément. Et donc, j'ai essayé de comprendre. Et moi, ma passion, c'est la mer et les bateaux, c'est la course au large. Donc, je me suis dit, il n'y a pas mieux. Quito, il ne va pas me dire le contraire. Quand on veut tester une équipe, on l'emmène en mer. Et la mer, soit elle explose l'équipe, soit elle la soude à jamais.
Et justement, on va poser la question à Quito de Pavant. Depuis pas mal de temps, on voit hein, des jeunes skippers qui portent un projet, un message à travers une association. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, nous-mêmes, on est dans cette logique-là. On essaye de soutenir la cause et la recherche contre le cancer qui concerne malheureusement beaucoup de personnes autour de nous, de près ou de loin. Et donc on a créé finalement un site pour générer des dons en faveur de la recherche contre le cancer. Ça s'appelle Cap contre le cancer. Et voilà, et ça permet de recueillir quelques fonds pour que la recherche avance et tout simplement pour que la maladie recule.
Pourquoi c'est important que les navigateurs maintenant portent des causes? Est-ce que c'est pour un peu pallier au fait qu'on puisse juger les navigateurs comme des conquérants de l'inutile? Voilà, faire le tour du globe à la voile, c'est vrai que ça n'a pas changé le monde non plus.
Vous voyez le monde qu'il y a autour de ce Vendée Globe, hein, c'est absolument incroyable. Et Eric, il voit ça effectivement de près cette année. C'est absolument incroyable l'effervescence, l'enthousiasme qu'il y a autour de cette course. Et je crois que finalement, c'est assez naturel de profiter de cette effervescence pour porter des messages, pour dire, voilà, effectivement, de naviguer utile. C'est effectivement une chose un peu nouvelle, mais on n'est pas les seuls à le faire. Je crois qu'on est nombreux à porter des messages, plus ou moins forts, plus ou moins importants. Et finalement, on essaye de profiter de la médiatisation de cette course énorme pour faire passer quelques messages et puis aider des causes qui ne sont pas perdues.
Alors, Éric Bayon, je le disais, vous êtes un bisu pour cette épreuve-là. C'est votre première participation. Vous avez quand même environ la quarantaine. C'est pas là, vous êtes quand même un marin aguerri. Hein. Vous avez déjà traversé plusieurs fois les océans, mais cette fois-ci en équipage. Là, ça va être la première fois en solitaire, en course pour vous. Quito, vous avez déjà cette expérience du Vendée Globe, des expériences qui ont été malchanceuses. Je le disais en tout début d'émission. Là, vous repartez pour une troisième fois. C'est pour prendre cette revanche sur le sort, là ?
C'est pas une revanche, c'est tout simplement, ça fait 10 ans que je travaille sur le Vendée Globe, que je prépare le Vendée Globe, et le Vendée Globe, j'ai toujours pas fait, quoi. Donc, quelque part, il faut rentabiliser ces 10 ans de dur travail, avec toute une équipe, avec la famille, avec les amis, avec les partenaires qui font ça. Je sais que je me sens serein, capable de faire ce Vendée Globe, de faire tracer un joli sillage autour de la planète, comme on voit sur l'image, là. C'est assez, assez formidable, cette image. Et je pense qu'on est capable de le faire, de raconter une belle histoire autour du monde, de faire une belle trajectoire, voilà, de bien naviguer, et puis d'arriver au Stade de l'Aude pour, voilà, pour boucler la boucle. Pour moi, c'est important. Ce n'est pas une vengeance. C'est pas, c'est rien de tout ça. C'est tout simplement continuer à faire du bateau. On a la chance d'avoir des jolis bateaux, d'avoir une planète qui est bleue. Et tant qu'elle est bleue, bah, il faut profiter de, voilà, des océans et puis de l'eau qui la recouvre.
Est-ce que ça a été difficile pour vous de convaincre les sponsors de vous suivre une nouvelle fois?
C'est toujours compliqué de convaincre des sponsors pour faire des trucs idiots comme celles qu'on fait. Ça reste compliqué. On a en France, en tout cas, en Europe, on va dire que l'économie ne va pas très bien. Il y a un manque de confiance générale sur l'avenir. Et évidemment, de mettre 3 sous dans des histoires de bateaux qui sont encore moins sûrs que ce qui se passe à terre, c'est toujours compliqué. Mais malgré tout, je pense que cette aventure du Vendée Globe est un véritable aimant pour les entreprises. D'abord parce que c'est très fédérateur en interne, c'est-à-dire que les entreprises adorent partager cette aventure, tout simplement parce que ça fédère et ça permet de raconter ensemble un truc absolument énorme. Il y a un peu de visibilité quand même sur nos bateaux. On voit le monde qu'il y a encore une fois sur les pontons. C'est vraiment un truc incroyable ce qui se passe en Vendée. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Quoi.
Donc pour vous, j'allais vous poser cette question-là. Est-ce qu'il y a une volonté de podium pour vous, Eric, comme Quito, vous allez me répondre, je suppose, non, le travail a déjà été fait là.
Malheureusement, le podium est envisageable que si les autres bateaux ont beaucoup de malheur. Quoi. Et c'est pas ce que je souhaite. Voilà. Je souhaite que tout le monde raconte une belle histoire, tout le monde arrive au Vendée Globe. Ce ne sera pas le cas, évidemment, on le sait bien. Moi, je me concentre sur un objectif unique, c'est de terminer cette course, de faire le Vendée Globe avec un début, un milieu et une fin.
Dernière question, Eric Quito. Pour vous, Eric, un objet que vous allez prendre, un objet personnel que vous allez prendre pendant cette course ?
Il n'y en a pas beaucoup. Je pense que ça va être une liseuse. J'aime bien lire, donc j'ai une liseuse avec 30 bouquins dedans.
Catherine Chabot me disait que pour son premier Vendée Globe, elle avait lu 70 bouquins.
Ah zut, bah, faut que je prenne plus alors.
Et vous, Quito ?
Moi, j'ai toujours pris des bouquins pour les aventures, quelle que soit la course. Et en fait, j'ai jamais réussi à lire une page. Voilà, donc cette année, je prends pas de livre. Par contre, je prends des écouteurs
et
plein de musique qui me rappelle pas mal de souvenirs. Voilà, de belles navigations.
Éric Bayon, Quito de Pavant, merci à vous deux.
Merci.
Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous prendrez le départ du Vendée Globe sur Comme un seul homme pour vous, Éric, et puis sur Bastide Othiau pour vous, Quito. Je vous souhaite un bon vent à tous les deux.